Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Aude Vernuccio m'accompagne pour le journal de 19h. Bonsoir Aude.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, le blues du monde de la culture, la réouverture des théâtres, musées et cinémas reportés d'au moins 3 semaines.
Un énième report alors qu'il s'apprêtait à retourner sur les planches en cette fin d'année. C'est la consternation, vous l'entendrez. La Covid, une bombe à retardement pour les étudiants. Dépression, pathologie, les psys universitaires constatent une hausse des consultations. Alors rassurez-vous, tout n'est pas noir ce soir. Les premiers vaccin arrive. Pour quand? De quel laboratoire? Notre expert santé fera le point dans ce journal. Également à la une, Assa Traoré, nommée parmi les personnalités qui ont marqué 2020 dans le magazine américain Time. Et puis on prendra la direction de Saint-Raphaël, deuxième journée des championnats de natation français.
À la fin du journal, la météo complète avec Nadia Neffer, bien sûr. Et puis on va défaire le monde car nous sommes vendredi soir.
RTL Soir.
Et d'abord, le blues du spectacle. Danseurs, chanteurs, comédiens n'ont travaillé que quelques semaines tout au plus cette année en raison de la pandémie. Pas de reprise espérée avant 3 semaines au moins. Étienne Baudu, vous avez rendu visite à Marseille, à la compagnie de théâtre, agence de voyage imaginaire. Tous les plans tombent à l'eau en cette fin d'année pour les acteurs.
Et oui, pourtant hier, les valises étaient prêtes. La troupe devait partir pour Alès où In Extremis, sa nouvelle pièce, avait été programmée pour mardi prochain. Valérie, l'optimisme d'habitude en bandoulière, est cette fois-ci complètement abattu.
J'étais, c'est même pas le mot sidéré. Sidéré, c'était pour le premier confinement. Là, j'étais triste. Je le savais pas, mais les larmes ont coulé, quoi. C'est-à-dire, je me suis vue pleurer devant un ministre qui nous dit, c'est fini, quoi. Stop, quoi. On allait faire notre première la semaine prochaine et cette première, on l'attend depuis 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est prêt. Notre spectacle, on l'a peaufiné, repeaufiné. Hier soir, franchement, on n'était pas joyeux du tout.
Et puis c'est aussi alors là l'incompréhension absolue. Hein. Pourquoi ne pas rouvrir comme les magasins, par exemple, car détaille Philippe Carr, le patron de la compagnie, le protocole sanitaire dans un théâtre est drastique.
Dans les théâtres, les gens rentrent un par un dans des couloirs qui sont très larges. Ils s'installent tous, extrêmement parsemés, tous masqués, ils s'expriment pas, tous face à la scène. Enfin, tout le monde évidemment doute que les théâtres soient plus dangereux que les grands centres commerciaux.
Du coup, les comédiens ont décidé d'aller là où ils ont le droit d'aller, jouer le mime devant des écoliers, prendre des instruments pour déambuler en fanfare dans des cités marseillaises, bref, exercer et partager leur passion par les temps qui courent.
Étienne Baudu, l'un des correspondants d'RTL à Marseille. Pour les traiteurs aussi, c'est un casse-tête au lendemain des annonces. Noël maintenu, mais à 6 maximum par table, jour de l'an sous couvre-feu. Alors les professionnels s'organisent. Pascal Guimain est traiteur et patron du restaurant Florimont à Paris.
Il faut que tout le monde comprenne, on s'adapte. J'ai proposé évidemment des choses connotation sur les fêtes, hein. Sur une poularde farcie. J'ai adapté en fait la cuisson farcie avec châtaigne, avec truffe, avec une farce de volaille. En pré-cuisson, les gens ont plus de 45 minutes pour la faire rôtir. Et une préparation qui fait aussi rêver un peu dans ce quartier, c'est en fait un oreiller de la Belle Aurore. C'est un plat de gibier en feuilleté, pareil pour 6 personnes. Habituellement, on fait en plus grosse quantité pour 10-12 personnes. Là, c'est un oreiller pour 6 personnes qu'on peut manger froid, qu'on peut manger chaud. Et j'en parle depuis 3 semaines aux clients, tout de suite, il y a les yeux qui brillent. Donc voilà, non, c'est évidemment qu'il faut garder de la joie. On va s'amuser à 6, 6 plus les enfants, et ça continue bien sûr.
Des propos recueillis par Raphaël Vantin.
On évoquait à l'instant la situation des comédiens, des artistes. Chez les étudiants, on ne parle plus de blues, mais parfois de dépression et de pathologie psychiatrique.
Une jeunesse qui se sent sacrifiée, isolée depuis la fermeture des universités à la Toussaint. Le gouvernement promet une reprise progressive des cours en présentiel à partir de début janvier. Il y a urgence pour faire face à la détresse des étudiants. Le service de santé universitaire de Sorbonne Université à Paris est passé de 160 heures de consultation à 240 par semaine. Reportage édifiant signé Marie Guerrier pour RTL.
À l'accueil, ils sont 3 derrière les téléphones et les ordinateurs.
C'est à peu près 150 mails par jour à traiter et environ 70 à 80 appels téléphoniques.
Le docteur Régnier dirige ce service de médecine universitaire.
Et puis, il faut savoir adresser ou au psychologue, ou au psychiatre, ou au médecin généraliste.
Il y a une enfilade de petites salles.
Le couloir est un peu étroit, donc je vous engage à vous désinfecter un peu les mains. Et puis, vous entretenez avec un psychologue.
Pedro Pereira reçoit des étudiants en consultation depuis 20 ans.
Il y a les mêmes problèmes que des amplifiée, mais il y a des problématiques nouvelles. Indéniablement, la solitude.
Il redoute les effets de l'annonce du couvre-feu le 31 décembre.
Je pense que ça va accentuer cette idée qu'on n'a pas le droit de s'amuser, qu'on ne peut pas se divertir.
Dans la pièce d'à côté, Philippe Soubrier est médecin généraliste.
Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être libérés, et donc ça les met quand même dans un état d'anxiété. Des étudiants qui font des attaques de panique. Hein.
Il lui arrive de prescrire des anxiolytiques, et ça peut aller parfois jusqu'à l'hospitalisation.
Ça arrive, cette semaine, c'est arrivé par exemple. Soit des dépressions très lourdes, soit quelque chose
chose qui est de l'ordre de la psychose. Nous, ça fait des années qu'on se rend compte que c'est un âge de la vie très compliqué. La pandémie l'a accentué, voilà.
Sorbonne Université promet qu'après l'épidémie, elle continuera à veiller non pas au bien-être des étudiants, mais au mieux-être.
Le reportage de Marie Guerrier pour RTL. Un espoir pour les professionnels de la montagne. Le gouvernement envisage maintenant de rouvrir les remontées mécaniques à partir du 7 janvier, toujours sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. 400 millions d'euros d'aides sont débloqués d'ailleurs pour soutenir toute la filière. La course mondiale au vaccin anti-Covid et le français Sanofi à la traîne. Le laboratoire pharmaceutique évoque la fin 2021 pour que son vaccin soit prêt, alors qu'en Grande-Bretagne, la vaccination a déjà commencé. En Europe, Sophie Jousselin, ce sera pour le début de l'année avec deux vaccins disponibles.
Oui, ceux de Pfizer et Moderna, les experts européens étudient en ce moment les données scientifiques, les résultats des essais. Si leur recommandation est positive, les autorisations de mise sur le marché arriveront dans les 15 premiers jours de janvier. Les pays européens pourront alors commencer à vacciner dès qu'ils auront reçu les premières doses. Si le processus est rapide, il n'est pas pour autant bâclé. L'agence du médicament a les mêmes exigences que pour n'importe quel autre vaccin, que ce soit en termes de sécurité et d'efficacité. En revanche, sa méthode de travail a été un peu modifiée. Elle a étudié les données scientifiques au fil de l'eau, au lieu d'attendre d'avoir sur son bureau un dossier complet et bien ficelé, comme dans une procédure classique. C'est ce qui lui a permis de gagner du temps. L'agence du médicament suivra aussi de très près les effets secondaires dès que la vaccination aura commencé. Au total, l'Europe a précommandé 2 milliards de doses auprès de 6 laboratoires. 15% seront pour la France. Elles seront distribuées au prorata de la population dans chaque pays.
Les explications de Sophie Jousselin, spécialiste santé d'RTL.
19h06 dans RTL Soir, on marque une pause, vous restez bien là, la suite du journal avec le choc des victimes de Joël Le Skouarnec, le chirurgien de Jonzac, condamné à 15 ans de prison pour viol sur mineur. Il fait appel, à tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
À 19h08 en ce vendredi, la suite du journal d'Aude Vernuccio. Le verdict avait été prononcé la semaine dernière. Le chirurgien Joël Le Skouarnec fait appel de sa condamnation.
Le pédophile de Jonzac, condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles sur 4 mineurs. Parmi les victimes dans ce dossier, deux de ses petites nièces. L'ancien praticien a reconnu avoir abusé d'elles. Leur avocate Delphine Driguez leur a appris la nouvelle.
Ça a été un choc terrible pour elle. Ça a été très compliqué de se retrouver face à lui, d'entendre des choses épouvantables. Donc c'est un choc pour elle parce qu'elles savent qu'elles auront probablement à recommencer, à moins qu'elles se désistent. La page n'est pas tournée. Le procès a été très, très, très pénible. Elles en sortent à peine. Ça fait une semaine et elles ne sont absolument pas remises. Elles ont des cauchemars toutes les nuits. C'est vraiment un très mauvais moment à passer, même si on savait que cette possibilité existait, que chaque jour, la chance d'interjeter appel diminuait. Ça a été fait vraiment, vraiment à la dernière limite. Donc, c'est l'idée de se retrouver encore face à lui, de recommencer les débats. C'est très difficile psychologiquement. Et donc, c'est un nouveau choc pour elle.
Propos recueillis par Alice Moreno pour RTL. 7 membres de la mouvance ultra-gauche présentés aujourd'hui à un juge interpellé en Dordogne et dans la région toulousaine. Elle prévoyait un projet d'action violente. Il projetait même de s'en prendre à des policiers. Des armes ont notamment été trouvées à leur domicile. Et puis en bref, on connaît désormais la date du procès des attentats du 13 novembre. Il est prévu du 8 septembre 2021 à fin mars 2022.
Dans le reste de l'actualité, Assa Traoré honorée aux États-Unis. Elle est, selon le magazine Time, l'une des gardiennes de l'année.
On comprenait l'une des défenseurs de l'anti-racisme de l'année 2020, considérée comme la porte-parole française du mouvement contre les violences policières. La sœur d'Adama Traoré est désignée comme étant l'une des personnalités de l'année, Lionel Gendron.
Oui, elle a toujours voulu que la mort de son frère ne reste pas un fait divers. Elle est en effet devenue un symbole mondial. Adama Traoré meurt en 2016 à 24 ans suite à une arrestation par les gendarmes. Dans une interview au Time, Assa Traoré fait le parallèle entre le décès de son frère et celui de George Floyd sous le genou d'un policier à Minneapolis.
Mon frère est mort exactement de la même façon que George Floyd, sauf que les caméras, elles n'étaient pas là ce jour-là. La mort de George Floyd va venir imager la mort d'Adama Traoré.
La mort de George Floyd a en effet eu un fort écho en France. Début juin, plus de 20 000 personnes manifestent à Paris. L'appel est lancé par Assa Traoré pour dénoncer les violences policières. Time la récompense donc au titre de gardienne de l'année aux côtés d'autres militants antiracistes, américains ou australiens. Le mouvement antiraciste qui était aussi en lice pour le titre de personnalité de l'année accordé au futur duo présidentiel Joe Biden, Kamala Harris.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. On passe au sport et les championnats de France de natation à huis clos cette année. Compétition bien particulière en raison de la pandémie. Avec en tête d'affiche ce soir Florent Manaudou pour le 50 mètres et le champion olympique de 2012. Combien a foulé le chrono, Isabelle Langer?
Ah oui, il est frustré, hein, Florent Manaudou. Depuis son retour dans les bassins, il a déjà prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent, qu'il a encore sa place sur la scène internationale. Mais pour aller décrocher une médaille à Tokyo l'été prochain, il est aussi conscient qu'il va devoir accélérer. Ce matin, en série du 50 mètres, le champion était loin d'être satisfait.
Moyen ce matin. Premier plongeon de la semaine, donc c'est un peu bizarre. Je voulais nager beaucoup plus vite. Donc je suis loin d'être prêt et d'avoir toutes les armes, entre guillemets. Il se passe des choses dans ma tête et je me dis, c'est pas grave, on ira plus vite ce soir et voilà.
Une finale ce soir dans laquelle Florent Manaudou compte bien effectivement claquer un chrono. S'il parvient à descendre sous les 21 secondes 50, eh bien il décrochera par la même occasion son billet pour les Jeux de Tokyo l'été prochain.
Isabelle Langer en direct pour RTL. Sixième abandon sur le Vendée Globe. Fabrice Amédéo jette l'éponge. Le skipper a été victime de problèmes informatiques sur ses deux ordinateurs de bord. En tête du dernier classement, Charlie Dalin, toujours leader devant Thomas Ruyant et Yannick Bestaven. C'est la fin d'un feuilleton qui dure depuis septembre. La Ligue de football professionnel a mis fin au contrat avec Mediapro. Le groupe sino-espagnol avait refusé de payer ses échéances du mois d'octobre. La chaîne Téléfoot diffusera cependant de la Ligue 1 au moins jusqu'au 23 décembre. Et puis sur le terrain, ce soir, Saint-Etienne affrontera Angers en match de Ligue 1. Coup d'envoi à 21h et rencontre à suivre évidemment dans RTL Foot.
Merci Aul. Toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. C'est tout simple, c'est rtl.fr. La météo pour demain, Nadia Neffer. Je vais rester poli, je dirais que ce sera moche.
Alors, en météo, on traduit ça par un temps perturbé qui donnera demain des averses du sud-ouest au Grand Est. Le ciel restera souvent nuageux, il neigera sur tous les reliefs. Demain après-midi, les éclaircies seront plus larges sur la façade atlantique et autour de la Méditerranée. Le Mistral et la Tramonta souffleront jusqu'à 100 km/h en rafale. Côté Mercure, les températures seront au-dessus des moyennes, j'allais dire encore. Les maximales demain samedi, 6 à Grenoble, 9 à Lyon, 10 à Tarbes, 11 à Paris, 12 à Nice, 13 à Brest et 14 à Perpignan.
Merci Nadia. Vous restez bien là, on va défaire le monde comme tous les vendredis dans une poignée de secondes avec toute l'équipe qui s'installe en studio. C'est tout en direct, Cyprien Sini, Céline Landreau, Marie Mollet, Brice Dugénie, Laurent Tessier et Grégory qui est aux manettes. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. J'astique mon casque.
Ouais, je vous en prie, à tout de suite.
RTL Soir.